Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier. Ça ne nous fera pas du mal de prendre quelques reculs pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Nous allons à Lodève. Je reçois sa mère, Gaëlle Lévesque. Merci d'être venue au micro de Divergence. Une élue venue du monde de la culture, c'est plutôt rare. En effet, vous étiez comédienne. Pourquoi cette vocation première et comment s'est-elle concrétisée?
Ah, bah déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, cette vocation de comédienne, elle a commencé à Lodève, dans les locaux de la Maison de la Jeunesse et de la Culture, où, à 16 ans, j'ai participé, en fait, à un petit groupe de théâtre. Et j'avais vu une représentation, ça m'avait plu, donc je l'ai intégrée. Et puis, elle a continué après, quand j'étais à l'université, à Montpellier, ici même, dans ce quartier, à la fac de Sciences Éco, où l'association étudiante avait lancé un atelier théâtre qui s'est petit à petit transformé en compagnie professionnelle.
Donc professionnalisée.
Oui, voilà, qui s'est professionnalisée. Et même en parallèle, quand j'étais en licence, j'étais au conservatoire de Montpellier. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit avec le temps pour qu'en 2003, je commence à faire des cachets et à avoir le statut d'intermittente du spectacle que j'ai eu jusqu'en 2021.
Et de cette passion, que reste-t-il? Que subsiste-t-il?
Une petite activité encore, hein, puisque malgré toutes ces fonctions quand même qui dévorent le temps, toutes ces fonctions d'élu, je réussis à faire 6 journées dans l'année de représentation et ça se passe à Narbonne.
Très bien. Alors, vous étiez active dans la vie associative de Lodève, pardon, vous l'avez évoqué, vous avez adhéré au Parti Socialiste en 2012. Marie-Christine Bousquet, qui a fortement marqué la commune jusqu'à sa mort en 2017, vous a lancé en politique en 2008 et puis en 2014. Elle vous a proposé de figurer dans sa liste pour les élections municipales. Quelle influence a-t-elle eu sur votre entrée et votre parcours en politique ?
L'influence principale, c'est que si ce n'était pas elle qui m'avait proposé d'intégrer sa liste, je pense que je serais partie avec personne. Je connaissais Marie-Christine Bousquet, puisqu'à la fin de mes études et en parallèle du théâtre, j'avais travaillé pour la communauté de communes Lodévois-Larzac qu'elle présidait à l'époque, qui était encore un autre périmètre que celle qui existe aujourd'hui. Et donc, c'était une personne que j'avais vraiment appris à apprécier dans ses méthodes de travail et sa vision du territoire. Donc, quand elle m'a fait cette proposition en 2008 d'intégrer sa liste pour les municipales, ça a été naturellement que j'y suis allée, par la connaissance que j'avais d'elle et de son regard.
Très bien. Donc, quelles ont été vos responsabilités successives dans les précédents deux mandats?
Sur le premier mandat, j'étais conseillère municipale à la jeunesse et en cours de mandat, je suis devenue adjointe. En fait, au fil du temps, j'ai mon investissement qui est devenu de plus en plus fort, au point que pour les élections de 2014, elle m'a proposé d'être sa directrice de campagne, ce que, bien sûr, j'ai accepté.
Et baptême du feu direct.
Oui, mais c'est ça. Hein, quand on prend goût à cette action-là, on y va à fond, de plus en plus. Et donc, sur le deuxième mandat, j'étais adjointe à l'urbanisme, ce qui m'intéressait vraiment parce que...
Gros sujet.
Un domaine que je ne connaissais pas, mais je sentais bien que c'était là que ça pouvait passer, par là que ça devait passer pour l'ODEF, pour la transformation de la ville. Et donc, je me suis formée. Et ça a été un mandat très, très intéressant. Et alors, c'est sûr, le décès de Marie-Christine en 2017,
Pierre Leduc lui a succédé jusqu'à la fin du mandat. Mmh. Et après,
à ce moment-là, moi, je suis devenue première adjointe au moment où Pierre Leduc est devenu maire.
Très bien. Alors, vous le savez, avant que nous parliez de vos activités actuelles, racontez-nous votre Montpellier. Donc, à votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, selon vous, là-bas, vous connaissez bien sûr un peu Montpellier, vous ne disiez pas, Qu'est-ce qui caractérise Montpellier quand vous parlez de Montpellier, je parle des amis de passage par exemple, que leur dites-vous de cette ville?
Déjà c'est une ville qui est magnifique. Et c'est une ville, du fait de la présence de nombreux étudiants, quand même, qui a une dynamique qui est manifeste. Et alors, je le revois encore plus aujourd'hui, puisque mon fils est étudiant dans le même...
Ah, vous avez un peu de température.
Et voilà, donc je peux jauger de la différence entre moi quand j'étais... Parce que moi, j'étais étudiante dans ce quartier. Donc, cette caractéristique-là, sa situation géographique et aussi vraiment notable. Et puis, moi, je ressens aujourd'hui beaucoup la transformation de la ville, et notamment par rapport à l'apaisement sur la circulation. Et sur la place de la voiture, on se sent beaucoup plus désiré en tant que piéton et pour déambuler aujourd'hui que précédemment.
Très bien. Alors, venons-en maintenant à vos activités et responsabilités. En 2019, nouvelle étape de votre parcours politique, vous avez été élu conseillère départementale du canton de l'Odève avec Jacques Rigaud. Vous présidez la commission Tourisme, Économie et Insertion du conseil départemental. Aux élections municipales de 2020, votre liste l'emporte de justesse avec 16 voix d'avance. C'est dans ces difficiles conditions que s'engage le mandat, qui a aussi fait de vous une vice-présidente de la communauté de communes, l'Odévois et l'Arzac. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à viser, vous étiez première adjointe, vous l'avez dit, à viser les fonctions de maire? Quel a été le ressort de ce nouvel engagement?
C'est vraiment la continuité de mon engagement auprès de Marie-Christine. Donc, comme je vous le disais, qui s'est renforcée au fil du temps. Et c'est vrai que sur ces dernières années avant son décès, elle me disait quand même que ce serait bien que je continue.
Et, elle vous a encouragé à continuer.
Oui, elle m'encourageait. Et même, elle pensait en fait se représenter en 2020, mais pas faire un mandat complet. Et son idée, c'était de me passer la main au cours du mandat.
Ah, donc, d'accord, oui.
Effectivement, bon, son décès a bouleversé ce plan-là. Mais du coup, j'ai continué.
Très bien. Et alors, donc, vous lancez. Alors, quels étaient vos grands objectifs, je dirais, les priorités que vous avez affichées au moment de. En présentant votre programme et votre projet politique en 2020?
En 2020, déjà, on a construit un projet politique avec les habitants, puisqu'on a fait plein de réunions où il y a plus de 250-300 habitants qui ont participé à l'élaboration du programme. Donc déjà, ça collait aux attentes des habitants. Mais vraiment, si on peut parler de deux axes, le premier, c'est continuer la rénovation urbaine, puisqu'on part vraiment d'un centre-ville qui a été abandonné à partir des années 70, donc avec beaucoup d'habitats dégradés. Et donc vraiment une reconquête à faire, et surtout dans un contexte où on arrête l'étalement urbain. Ce sont vraiment des directives qui s'imposent à nous, mais qui sont justes. C'est la reconquête de l'habitat existant, sa modernisation, son isolation. Un axe très fort. Alors, il y a l'habitat, mais il y a aussi les espaces publics, les services, tout ce qui fait le cadre de vie des habitants. Et puis, le deuxième axe, c'était vraiment la proximité. Retrouver vraiment... un fonctionnement au jour le jour avec les habitants pour pouvoir, au fil du temps, adapter les politiques pour qu'elles répondent le plus aux besoins.
Donc, être à l'écoute de la population d'une manière plus régulière et, j'allais dire, plus effective, parce que, écoutez, c'est probablement bien, mais si ce n'est pas suivi d'effet, bien sûr, ça pose problème. Très bien. Alors, je l'avais pointé, vous l'avez évoqué, les questions de rénovation urbaine et de reprise en main. Bon, il y a beaucoup de villes dont le centre ancien a connu de grosses difficultés. Bon, je pense à Agde, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, qui avait donc une approche très complexe de prise en compte d'un habitat dégradé, de commerce plus ou moins en difficulté. 5 ans après, bon, sans compter même ce que vous avez pu faire avant en tant que élu délégué à l'urbanisme, où en est-on aujourd'hui? Quels sont les progrès que vous avez pu enregistrer?
Ça a beaucoup avancé, mais c'est vraiment un travail de longue haleine, puisqu'il a commencé dès 2009 avec un travail sur une étude de définition urbaine qui pouvait faire ressortir les potentialités de la ville. En 2013, on a essayé de comptabiliser le le nombre de logements potentiellement indignes sur lesquels il fallait mettre l'accent. Et puis, on a été à l'affût de tous les dispositifs d'État et de dispositifs financiers, notamment, qui pouvaient venir soutenir cette politique de rénovation. Donc, parce que l'Odève est une ville qui est assez pauvre, le cœur de ville est classé quartier prioritaire politique de la ville, ça veut dire qu'on a une concentration d'habitants précaires. On comptabilise en gros la moitié des habitants du cœur de ville qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et tout ça, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. L'habitat dégradé amène potentiellement la présence de marchands de sommeil qui proposent des logements sans condition, à des gens. Et ça amène aussi à une rotation très, très forte des habitants du cœur de ville qui viennent ici parce qu'il y a une opportunité de logement, mais qui ne restent pas.
Parce que dès qu'ils peuvent trouver un peu mieux, ils partent.
Ben voilà, et on les comprend. Donc l'objectif, ça a vraiment été d'agir là-dessus, déjà pour que les gens et même les précaires vivent dans des bonnes conditions. Donc tout ça, ce sont des opérations programmées d'amélioration
De l'habitat existant.
C'est ça.
Et de construction aussi, dans le centre ancien, de construction nouvelle dans les parties de stade d'anciens qui avaient été dégagées
Oui, mais c'est vraiment les propriétaires, inciter les propriétaires avec des subventions à rénover leur logement, que ce soit pour les louer ou pour les habiter eux, mais aussi c'est prendre en main des îlots particulièrement dégradés, qu'aucun propriétaire privé ne pourrait investir parce que la dégradation est trop forte. Et à ce moment-là, c'est la collectivité qui achète. Et on a 3 îlots en cœur de ville qui ont été entièrement rénovés avec de la création d'habitats, du commerce en rez-de-chaussée. Et là, on attaque la rénovation du 3e îlot où on aura 14 logements et un grand commerce en rez-de-chaussée juste à proximité du musée de l'Odève.
Donc, on voit bien comment ce travail se fait pas à pas, c'est compliqué techniquement, financièrement,
c'est très long.
Et c'est long. Donc il y a encore du taf.
Oui, exactement.
Autre sujet important, c'est la situation de l'emploi. Vous y êtes attaqué notamment avec un dispositif novateur et ambitieux qui s'appelle Territoire au pluriel zéro chômeur de longue durée, un dispositif national. Donc l'Odève figure dans cette expérimentation. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est la méthode employée? Que peut-on dire aujourd'hui des premiers résultats que vous avez pu enregistrer?
Alors il y a eu déjà 2 lois d'expérimentation. Une première qui a vu 10 territoires en France qui ont expérimenté. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et nous, on s'est inscrit dans la 2e loi d'expérimentation qui était en 2020. C'est pas la mairie déjà, mais c'est un collectif d'habitants qui ont commencé à travailler le sujet et qui sont ensuite venus voir les collectivités, villes et intercommunalités,
donc départements. C'est parti d'initiatives citoyennes.
Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi une singularité de l'Odève, c'est qu'on a des gens qui sont très engagés et on arrive à bien travailler ensemble à construire.
Peut-être quelques engueulades ou quelques frictions, mais
forcément,
ça bosse.
Forcément, mais y a une très bonne collaboration. Donc des habitants sont venus nous voir pour interpeller les collectivités sur cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Alors ça veut dire que les fonds chômage qui sont versés aux gens qui sont en situation de perte d'emploi. Et ben en fait, dans cette expérimentation, on les redirige vers une entreprise à but d'emploi qui touche ces fonds et avec cet argent, salarie en CDI des chômeurs de longue durée. C'est ça le principe.
Chômeur de longue durée, recruté en CDI pour un certain nombre de tâches et de missions d'intérêt général
Oui, d'intérêt général, puisque les activités, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont proposées par cette entreprise à but d'emploi, qui à l'Odève s'appelle l'Abeille Verte, ces activités, en fait, ne viennent pas en concurrence de l'économie locale. Donc ça va être des niches et des actions qui ne sont
des
pas
besoins.
Portées.
Plus collectif, je dirais, en tout cas des besoins de services à la population qui ne trouve pas en face une offre organisée. Et donc, c'est l'Abeille Verte qui s'emploie.
Et donc, on est sur des champs, par exemple, sur le champ du réemploi. Il y a une très grosse recyclerie. Il y a un travail aussi sur le réemploi des fenêtres, par exemple. Comment est-ce qu'on amène dans les filières de recyclage les fenêtres en démontant les bois, les alus, le verre, pour que tout ça, au lieu d'être enfoui Nous, on a un site d'enfouissement à côté de l'Odève. Au lieu que ce soit enfoui, en fait, c'est valorisé sur les filières de recyclage. Donc, il y a ça, il y a des services à la population qui sont de l'accompagnement de personnes âgées, des aides à la mobilité, des aides aussi sur le compost et comment est-ce qu'on gère les biodéchets. Et puis, il y a aussi une filière de production de maraîchage, vraiment en direction des cuisines centrales. Donc, en gros, c'est ce champ qui est investi par l'abeille verte.
D'accord. Ça représente combien d'emplois ?
Quand même, en 3 ans, il y a 170 personnes. D'accord. Alors, il y a plus de 200 personnes qui ont été embauchées, mais à aujourd'hui, l'abeille verte a plus de 170 D'accord. salariés.
Dans une ville de 8000 habitants, c'est
oui.
ça ?
Et donc, ce sont des gens qui étaient au chômage depuis longtemps ou qui étaient vraiment dans des emplois très, très précaires, des gens qui habitent l'Odève. Et tout ça part du principe que de l'activité, il y en a, de l'argent, il y en a. Et c'est une histoire d'organisation.
Très bien. Alors, peut-être pour balayer, sans entrer dans le détail ni produire un catalogue, ce que vous avez pu faire ces dernières années, quelles sont les réalisations, je parle en équipement, en aménagement ou en service rendu à la population qui ont été mis en œuvre et dont vous tirez peut-être quelques fiertés.
Des aménagements espaces publics notamment, parce qu'on a parlé de la rénovation urbaine, ça continue. Hein. Il y a plus de 500 logements quand même qui ont été financés à l'Odève pour de la rénovation. Mais sur la partie espace public, là, on a vraiment investi 2 champs, et plus en direction de la jeunesse et des espaces sportifs, où en fait, on a entièrement rénové, et c'est encore en cours, un espace qui s'appelle le complexe Victor Koretsky, de notre champion olympique de vélo, et qui est originaire de l'Odève et qui y habite. Donc là, c'est tout un espace où on a le stade d'honneur pour le foot et le rugby qu'on a rénové et qui aujourd'hui a une pelouse synthétique. Donc bon, ce sont des investissements qui sont très très lourds, mais qui vont aussi dans le sens de la prise en compte de l'environnement, puisque avec les périodes de sécheresse qu'on a connues, les stades en pelouse, c'est vraiment très
pelouses
compliqué
naturelles,
à maintenir. Et puis on est en train de faire la maison des sports, on rénove la piscine, on a rénové tous les espaces publics autour aussi pour permettre aux collégiens, aux lycéens de passer par ce complexe-là et pas par les routes pour des mesures de sécurité et de bien-être. Hein. On raccorde cet espace-là à la rivière, à d'autres espaces naturels. Donc, en fait, on revoit vraiment tous ces espaces publics et on est aussi en train de terminer les travaux d'un parc, le parc de Grésac, où c'est 7000 m² qui était avant, c'était que du bitume, où il y avait un petit skatepark.
La création d'un parc ex nihilo, donc.
Exactement. Les arbres ont été plantés, ça commence à se structurer, on retrouve la colline hein, avec des niveaux différents. Et là encore, c'est un espace pour les habitants, pour les jeunes, pour les familles, pour les personnes âgées. Tout ça, c'est toujours la volonté de faire du lien entre les habitants et d'éviter les divisions et l'isolement des personnes.
Très bien. Alors, on ne pourra pas tout raconter, mais il y a encore un angle d'information qui s'ajoute à ce que vous nous dites. L'Odève figure à nouveau dans un palmarès national. Elle est parmi les 10 villes françaises sélectionnées dans la consultation internationale qui s'appelle « Quartier » au pluriel de demain. Et c'est la seule ville d'Occitanie. Alors, quelle est cette démarche ? Qu'est-ce qui va se passer ?
C'est encore comme on a été le premier territoire d'Occitanie labellisé territoire zéro chômeur de longue durée. Là encore, on fait un peu figure
de pionnier
sur cette démarche. Alors, ça a été lancé par le président de la République l'année dernière, printemps 2024, dans le cadre des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et en fait, l'objectif, c'est de réaliser des espaces publics, des aménagements paysagers ou architecturaux vraiment d'exception dans un quartier prioritaire politique de la ville. Donc une démarche singulière parce que l'appel a été lancé, on a candidaté, notre sous-préfet de l'Odève, Éric Suzanne, nous a informé de cette démarche-là parce que déjà, avant de répondre à un appel à projet, il faut savoir qu'il existe. Et donc on s'est lancé avec l'objectif d'aménager nos berges de rivière.
Parce que, il faut dire que l'Odève est au... confluence de deux rivières.
Exactement, la Lergue et la Soulondre. Voilà. Donc c'est une chance pour la ville, mais on avait fait ce constat depuis plusieurs années, depuis l'étude de définition urbaine, que la rivière n'était pas vraiment partie prenante, et plutôt les habitants tournaient le dos à la rivière plutôt que d'en profiter. La rivière à l'Odève, elle a une grande histoire, puisqu'elle a été le moteur économique dès le XVIIIe siècle de l'activité textile.
Pour les usines textiles. Oui.
Il fallait de l'eau pour les faire fonctionner. Donc elle a toujours eu en fait cette position de facteur de production, mais jamais aménagée pour être un espace de vie pour les habitants. Donc quand on a répondu à Quartier de Demain, on a mis cet objectif d'aménager les berges et d'en faire des espaces de vie pour les habitants. Au-delà de ça, on a mis dans le programme aussi qu'on voulait travailler sur la création d'une salle d'événementiel, puisque c'est le dernier équipement qui nous manque. On a un très beau musée à l'Odève, on a un très beau cinéma.
Qui est un des facteurs de rayonnement de la ville.
Oui. Exactement. On a une maison de santé pluriprofessionnelle, on a une grande maison de la petite enfance. Enfin, on est vraiment assez bien calibré en équipement. Et une salle d'événementiel qui puisse accueillir aussi bien des spectacles que des congrès, des conférences, et être aussi un lieu pour les associations locales et leur expression. Quoi.
D'accord.
Donc voilà, on a intégré ça au programme. On a été retenu. Alors, on est la plus petite ville de France parce qu'on est quand même avec Le Mans, Caen, Colmar, Manosque, des villes dans la région parisienne aussi. Donc, la plus petite, la seule d'Occitanie et la ville la plus rurale et la ville pour laquelle le quartier prioritaire politique de la ville est le cœur de ville. Donc, ça veut dire que le projet, en fait, qui est déployé va concerner carrément tout le centre-ville avec ses rivières. Alors que dans d'autres communes de France, ça va être la réhabilitation d'une barre d'immeuble.
D'accord.
Voilà.
Alors,
il faut aller un peu vite.
On va couper court, mais on a compris l'enjeu, l'intérêt que ça présente. Et
la démarche singulière, c'est qu'on a des équipes d'exception de concepteurs. On a deux équipes espagnoles et une équipe du centre de la France.
Qui sont rémunérées dans le cadre de cette opération.
Voilà, et qui sont rémunérées par l'État.
D'accord. Très bien. Donc, il faudra revenir à l'Odève dans quelques années pour voir ce qui en est. Le temps file. Autre question, donc votre mandat s'achève. Bon, il a été marqué, chacun le sait, par des crises, le Covid, la crise énergétique. Ça a été un peu compliqué. Est-ce que, en tout cas, ça a un peu freiné ou rendu plus difficile la mise en œuvre du projet politique?
Oui, forcément. Dès le début, crise sanitaire, on avait énormément d'ambition sur le développement du dialogue dans les quartiers. Et on n'a pas pu le faire parce que les réunions publiques étaient hyper compliquées. Donc, la crise sanitaire, ça a été complexe. Et puis, la crise énergétique, suite au démarrage de la guerre en Ukraine, en fait, nous a aussi beaucoup impacté, puisqu'on avait élaboré un plan pluriannuel d'investissement avec des créations d'équipements au fil du mandat. Ça a été bouleversé et on a réorienté nos investissements sur les économies d'énergie. Et ce qui a été vraiment bon, parce qu'au-delà des usages, on a rénové trois espaces, deux écoles et la salle polyvalente et l'espace Luteva, qui étaient vraiment... qui consommaient beaucoup. Et on a réduit, en fait, de 60% notre consommation énergétique, rajoutant aussi l'extinction de l'éclairage nocturne. Donc, pour la suite, c'est bien, parce que, on va avoir des coûts de fonctionnement qui vont être réduits.
Pour le coup, c'est un investissement. Voilà. Oui. C'est pas simplement
un investissement, mais qui perdure dans le temps. Avec les baisses de consommation.
Et alors, dans le prolongement de ce que vous venez de nous indiquer, quel est l'enjeu de la fin du mandat, 10 mois avant les prochaines élections? Qu'est-ce qui vous occupe ou vous préoccupe le plus?
Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'on ne se laisse pas embarquer dans des logiques de division des habitants. On sent bien que les choses vont se tendre. Il va y avoir des propositions par les uns et les autres de parti pris. La chance de l'Odève, c'est d'être une ville multiculturelle. Elle a accueilli au fil du temps beaucoup de populations espagnoles, les Harkis en 64. Donc on a vraiment... On a la chance de vivre dans une ville où les gens vivent vraiment les uns... à côté des autres et au mieux avec les autres, sans dissension. Et moi, ce que je voudrais vraiment, et c'est ce qu'on veut à travers nos espaces publics, c'est préserver ce bien-vivre ensemble dans la ville. Sous que l'Odève est devenue une ville désirable, parce qu'il y a un super cadre de vie, il y a tous les services qu'il faut.
Est-ce qu'il faut, profitez-en peut-être pour modifier, chaque auditeur en prendra ce qu'il voudra, une image très négative, très partielle, peut-être dépassée.
Ah, mais complètement dépassée.
Qu'à l'Odève, notamment aux yeux des Montpellierens, pour qui, bon, à part le musée, pour un coup sûr, il n'y a pas grand-chose à faire ou à voir à l'Odève.
Non, mais surtout, c'est une ville qui est bonne à vivre. Il y a une vraie communauté lodévoise, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Et suite aux périodes de confinement, notamment, enfin, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont venus habiter à l'Odève parce que le cadre de vie est beaucoup plus serein qu'ailleurs. Et on est entouré par une nature magnifique, des grands sites, c'est un immense terrain de jeu. Donc ça a vraiment changé. Et on est sur une ville où il y a très, très peu de délinquance, même au regard de nos voisines, Clermont-Gignac, où vraiment, enfin, c'est une ville super apaisée, super belle.
Bien, ben, tous à l'hôtel. Alors, un petit mot pour s'adresser aux auditeurs qui, vous le savez, sont pour la plupart dans l'air à Montpellierens ou dans la métropole. Quelles sont vos relations avec la métropole, avec son président Michel Delafosse? Est-ce qu'il y a des dossiers d'intérêt commun qui sont au moins sur la table actuellement?
Oui, alors déjà, bon, moi, je salue vraiment le travail de Michel Delafosse sur Montpellier et je le vois à chaque fois que je viens à Montpellier. Enfin, le travail qu'il réalise, hein, pas lui. Mais on a des sujets en commun, notamment les transports. Et donc, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on travaille pour... Et l'Odève a été, et le territoire du Lodévois-Larzac a été raccroché au projet du CERM. Et donc, sur l'Odève, on est en train de travailler sur la création d'un pôle d'échange multimodal pour avoir une plus grande fréquence d'échange de transport collectif entre la métropole et et l'Odève. Donc ça, c'est un sujet...
Ça, c'est un sujet sur lequel il y a un travail qui est engagé. Ce qui est important à souligner, parce que Michel Delafosse l'a fait avec les intercommunalités limitrophes, Pays de l'Or, Grand Pic Saint-Loup, mais vous êtes un peu plus loin pour
Alors, on est un peu plus loin, mais l'Odève est une sous-préfecture et on a des échanges de population et il y a beaucoup de sens, en fait, à être en lien. Et puis, il y a le sujet de l'économie aussi. On sait très bien que sur la zone de Montpellier et la métropole, c'est de plus en plus difficile pour des entreprises de s'installer. Donc là encore, on a une carte à jouer sur ce partage-là. Nous, on a un très, très beau parc d'activités à côté de l'Odève, le parc Michel Chevalier.
Voilà, qui était au sud de l'Odève, près de l'autoroute.
Près de l'autoroute, donc très, très bien desservi, un parc très qualitatif.
Il y a de la place, donc.
Et il y a encore de la place, donc voilà, les collaborations sont multiples.
Donc, qu'on soit chef d'entreprise qui cherche une implantation ou habitant qui cherche à vivre dans une petite ville sympathique, où éventuellement il crée une activité, il faut venir à l'Odève, c'est bien ça, Gaël Lévesque.
C'est exactement ça.
Très bien, ben, je vous remercie. Bonne journée.
Merci à vous.
À une prochaine fois.
Au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpellierenne, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.